Est-ce que la parole qui a été annoncée ce matin va rester sur le bord du chemin? Ou est-ce qu'elle va entrer dans notre cœur et vraiment... Est-ce que nous allons obéir? Si je posais la question à l'Assemblée ce matin, à qui le Seigneur a-t-il parlé? Alors je pense qu'il y aurait beaucoup de mains qui se lèveraient en disant « à moi, à moi ». Bien sûr, je ne parle pas du fait d'avoir entendu la voix de l'Éternel distinctement. Je sais que certains pourraient le dire. Mais je parle du fait de quelqu'un qui aurait, au travers d'une prédication, au travers d'une exhortation, a réellement entendu le Seigneur lui parler. Ah, tout le monde, oui, moi, moi, moi. On est content, oui, le Seigneur m'a parlé. La deuxième question, qui lui a obéi? Alors là, je ne suis pas certain qu'il y aura autant de mains qui resterait élevé. Je sais qu'il y a des gens ici dans cette assemblée qui ont vécu cette expérience où le Seigneur leur a parlé et ils ont obéi sur le champ. Et ça leur a changé leur vie. On dit souvent et on entend souvent des chrétiens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Je suis assez, j'en ai déjà discuté avec Daniel et Paul, je suis assez sceptique quand j'entends les gens dire « Dieu m'a dit ». Pourquoi je suis sceptique? Parce que parfois on s'aperçoit que derrière le « Dieu m'a dit », il n'y a rien qui a changé. Absolument rien. Donc « Dieu m'a dit », oui, d'accord. Oui. Je pense que si on avait vraiment la conscience que l'Éternel nous parle, ça c'est « Dieu m'a dit et j'ai fait ». Mais malheureusement, ce qu'on remarque souvent dans la vie de certaines personnes, de ceux qui disent malheureusement Dieu m'a dit, c'est qu'il n'y a aucun changement. Alors la prédication de ce matin, j'oserais l'appeler l'ordre d'écouter l'Éternel. Et on va aller en Ésaïe, chapitre 48, à partir du verset 12. Donc certains pourront peut-être considérer que c'est comme une étude biblique, mais vous allez voir que c'est frappant. Et c'est désolant à un moment de ce passage. Donc, Ésaïe, chapitre 48, verset 12, jusqu'au verset 22. Donc, on va lire ces versets, ensuite on va étudier ce texte. « Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier, c'est moi, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre. Et ma droite a étendu les cieux, je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Or, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher, et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est un texte qui se situe juste après la chute de Babylone, et c'est en quelque sorte une controverse de l'Éternel avec son peuple au sujet des idoles. Si on remonte aux versets 1 et 2, parce qu'on peut s'étonner, mais comment ça se fait que l'Éternel donne un tel message et Isaïe en soit le porteur? Et si on prend le verset 1 et 2 du verset 48, du chapitre 48, on comprend exactement ce que l'Éternel veut dire. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le nom d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. C'est loin d'être flatteur, je pense. En fin de compte, on nous dépeint des Juifs qui parlent avec une facilité de l'Éternel, incroyable. Comme d'autres pourraient dire « je suis chrétien ». Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne s'accorde absolument pas bien du tout avec l'idolâtrie. Au verset 5, « Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites. » Le peuple d'Israël en était arrivé à ce point-là. C'est que d'un côté, il adorait l'Éternel, et de l'autre côté, il adorait des idoles. Ils avaient des idoles. La question ce matin, c'est quelles sont les idoles qui sont dans mon cœur? Jeannette a parlé de parler, d'annoncer, de lire la parole tout haut. Et souvent, les gens pensent que les idoles, c'est une statue, c'est ceci, c'est cela. Vous savez que le malin a cette facilité de mettre des idoles pernicieuses dans nos vies. Les idoles pernicieuses dans nos vies, c'est le travail. C'est le fait peut-être d'aimer l'informatique, d'aimer quelque chose qui, en fin de compte, va nous détacher de lui. Et en fin de compte, ce qui fait, c'est qu'on devient hypocrite. On devient vraiment hypocrite. Parce que d'un côté, on vient à l'église, d'un côté, on loue le Seigneur, et de l'autre, la semaine, on l'oublie. Et c'est ce que l'Éternel est en train de reprocher à son peuple. Ils apparaissent ici comme des hypocrites endurcis au verset 4, « Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer » et que tu as un front d'airain. » L'Éternel avait déjà annoncé des choses avant qu'elles n'arrivent. Pour éviter de dire, bah oui, c'est mon idole qui me l'a fait, c'est mon idole qui me l'a déclaré, c'est tel mon travail qui m'a fait ceci. C'est une description bien plus sombre que celle du manque de foi, et on peut lire au chapitre 40, verset 27, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Peut-être qu'on prie l'Éternel et on se dit, mais il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Est-ce qu'on a de la froideur, comme on peut lire au chapitre 43, verset 22? Et tu n'as pas invoqué au Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Est-ce qu'on s'est lassé de Dieu? Je parle pas de. Je suis pas en train de vous parler du fait d'être obligé de lire la parole tous les jours. Le Seigneur vous oblige à rien du tout. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai soif de lire la parole tous les jours? Si ce n'est pas le cas, on a des questions à se poser. Est-ce qu'on n'est pas comme ce peuple-là, ce peuple d'Israël qui d'un côté louait l'Éternel et de l'autre avait des idoles? Est-ce que j'ai soif de méditer la parole? Et tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce que j'ai choisi ce verset, Romains 2, chapitre 20, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors et la circoncision. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En fin de compte, c'est est-ce que j'ai Christ dans mon cœur? Est-ce que je vis pour Christ? Est-ce que je suis réellement chrétien? Ou est-ce que j'ai la religiosité? Dieu rejette toute forme extérieure qui ne traduit pas en même temps un engagement profond du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vis pour Dieu? Ou est-ce que je vis pour faire semblant d'appartenir à Dieu? Est-ce que ce que j'ai sur le cœur reflète exactement ma façon de vivre? Est-ce que mon trésor, c'est Jésus-Christ? Ce peuple-là, de toute manière, si vous étudiez, si vous lisez Ésaïe, vous allez voir que c'est toute une réplique du fait que l'Éternel a demandé vraiment à Ésaïe d'attacher toutes ces choses, de montrer au peuple qu'il était complètement à côté de la plaque. Et tout à l'heure, on a parlé des vêtements, on a parlé de choses. Vous savez que chacun en sera jugé selon ses œuvres. Beaucoup disent, oui, mais il y a la grâce. Et je lisais un livre hier qui disait que c'est une abomination pour beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de dire que la grâce est une abomination. Je suis en train de vous dire que pour certains chrétiens, c'est un poison. Parce qu'il y a énormément de gens qui se réfugient derrière la grâce. Et c'est-à-dire qu'ils vont appuyer leur foi sur la grâce de Dieu sans jamais se mettre devant le Seigneur et se repentir. Sans jamais se repentir. C'est-à-dire que c'est comme si il pleut dehors, on prend un parapluie et on avance. Voilà. Et le jour où on oublie le parapluie, qu'est-ce qui arrive? La pluie nous tombe dessus. La repentance, c'est le fait d'avoir ce parapluie en permanence. Le fait d'avoir vraiment donné sa vie au Seigneur, d'avoir expliqué tout ce qu'on a fait, tous nos péchés. Parce que si l'auteur de ce livre disait que le piège, c'est justement de croire que le salut vient de la grâce. C'est pas ça, en fin de compte. Jésus-Christ n'est pas mort pour la grâce. Jésus-Christ est mort pour que le péché soit effacé dans nos vies à partir du moment où on se repent. La grâce, c'est simplement le fait de ne pas être jugé de suite, le fait de ne pas subir la colère de Dieu, le fait de pouvoir encore aujourd'hui être sauvé. C'est ça la grâce. Et pour ceux qui viennent le samedi, ils savent très bien qu'un jour, la grâce s'arrêtera. Et alors, à ce moment-là, ça sera des moments terribles. À ce moment-là, on va savoir quelle robe on a. Est-ce qu'on a une robe blanche? Ou est-ce qu'on a une robe? Ou est-ce qu'on s'est couvert de la robe de la religion? C'est ce que ce peuple faisait, en fin de compte. Ils se revêtaient de la religiosité et l'Éternel les avertit. On va lire en 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Donc, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Dans ce verset, tout est dit en fin de compte. L'Éternel ne regarde pas l'apparence. On dit souvent, et avec Arlette on le dit souvent, il faut faire très attention. On peut tromper les hommes. Parfaitement. Mais on ne trompe jamais Dieu. Vous voyez, j'ai même pas dit on ne trompe pas Dieu, on ne trompe jamais Dieu. Dieu accorde une faveur spéciale à ceux qui mettent leur vie à part. C'est-à-dire à ceux qui vraiment se sont mis devant lui et ont tout donné. Ont donné leur vie, réellement. Il y a des gens qui ont vécu des années dans des églises sans jamais avoir fait ce pas de repentance. Jamais. Et en fin de compte, je vais peut-être dire des choses qui vont vous choquer. Ce sont simplement les marionnettes du malin. Vous voyez, ce sont des marionnettes du malin. Parce qu'en fin de compte, la parole de Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu glisse sur eux. Elle n'entre pas. Ou alors elle rentre de façon intellectuelle sans jamais rentrer dans leur profondeur. La parole de Dieu est empêchée de faire son œuvre. L'Éternel, quand il dit écoutez, quand il dit ça à son peuple, c'est qu'il sait dans quelle voie ils se sont mis. Il le sait parfaitement. C'est un rappel à l'ordre. Et pour ceux qui sont là le samedi, on en a discuté souvent, malheureusement, du fait d'être un chrétien de nom. Un chrétien de nom, c'est quelqu'un qui dit « je suis chrétien, je crois en Dieu ». Mais toute sa vie n'est rien, ne représente rien. Et on parlait justement de beaucoup de gens qui veulent travailler pour le Seigneur. Montrer une image de bon chrétien. Là où je travaille, quand je vois des fois certains et certaines qui balayent le parvis de l'église, qui nettoient tous les vendredis parce que peut-être que ça lui redonnera une place au paradis. Mais est-ce que la repentance a effleuré leur esprit un jour? Est-ce que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont au quotidien reflète ce qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur? Est-ce que c'est vraiment ça? Bien sûr, en agissant comme ça, il y a un truc qui est sûr, certain, c'est qu'ils se condamnent. Ils sont condamnés. Ils viennent, en fin de compte, à définir qu'ils sont sauvés par leurs œuvres. Rien d'autre. Parce que je fais de l'évangélisation, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, je suis présent à toutes les réunions. On est présent aux réunions pour quoi? Pour qui? Est-ce qu'on est présent aux réunions pour les anciens, pour leur faire plaisir? Est-ce qu'on est présent aux réunions pour faire plaisir au pasteur? Ou est-ce qu'on est présent aux réunions parce qu'on a soif? Parce qu'on a soif. Imaginez que ces juifs entraient dans les synagogues et louaient l'Éternel. Et dès qu'ils étaient sortis, ils allaient adorer leurs idoles. C'est fantastique. C'est fantastique. Il faut se méfier de tout ce qui peut usurper la place de Dieu dans nos vies. Il faut vraiment se méfier. Est-ce que on est soumis à Dieu? Ou est-ce que tout ce qu'on fait usurpe justement cette place qu'on a, cette intimité qu'on pourrait avoir? Et le pire des usurpateurs, c'est le service pour Dieu. C'est le pire. Il est facile de servir Dieu, très facile. On peut faire tout ce qu'on veut pour le Seigneur, tout ce qu'on veut, sans jamais être vidé. Sans jamais être vidé. Quand j'appelle être vidé, ça veut dire sans avoir réglé sa vie devant lui. On peut parfaitement travailler. On peut, bien sûr, on va s'apercevoir au bout d'un moment, et ça c'est clair, que si ce n'est pas un appel de Dieu, on va directement dans le mur. Mais on peut le faire. On peut partir, on peut évangéliser, on peut faire ce qu'on veut. Mais on peut le faire sans être réellement à Christ. Le seul but de Dieu est la révélation de son être en nous. C'est le seul but. C'est pas l'ordre de faire quoi que ce soit pour lui. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu a besoin de nous? Sincèrement. Sincèrement. Vu le temps qu'on a sur Terre, moi je me dis quelque part qu'il n'a absolument pas besoin de nous. Mais il peut parfaitement nous utiliser. En fin de compte, un chrétien, non, c'est quelqu'un qui fait simplement vivre et suivre. Il suit une forme extérieure de religion. Il est fier d'appartenir à ça. Il n'a pas de vie, en fin de compte, aucune vie divine. Il n'a aucune relation avec Dieu. Et vous inquiétez pas qu'au bout d'un moment, ça se voit quand même. Ça se voit parfaitement. Ça se voit au travers d'une vie un peu dissolue. Et Kit me disait souvent que quand on va chez quelqu'un, des fois on voit rien qu'à voir l'intérieur des maisons. Il dit des fois il était frappé par des fois les gens qui étaient insignifiants, qui étaient au fond d'une église, et quand il allait chez eux, c'était alors tout rangé, tout propre. Bon, je dis pas que c'était vraiment, mais pour lui c'était des fois les gens ont une vie complètement dissolue. Et c'est là où on commence à voir qu'il y a des problèmes. Et donc, on peut tromper qui on veut. Mais à un moment donné, le Seigneur nous montre qu'il y a des problèmes dans les vies. On peut, donc là je parlais du chrétien de nom, mais on peut également parler pour ces versets, pour ces gens, pour ces chrétiens qui attachent plus d'importance aux apparences, c'est-à-dire des gens qui veulent, moi je veux faire ceci, moi je fais cela, et en fin de compte, c'est pernicieux, c'est très pernicieux, parce que ils se glorifient pas de l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie. Ce qu'ils veulent attacher, c'est simplement l'image qu'ils donnent, et ça c'est très dangereux. La plus belle image qu'un chrétien puisse donner, c'est justement ne pas paraître. Être insignifiant dans une église. Il y a des gens qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, et qui ont ne serait-ce que nettoyé une église. On ne les entend jamais, on ne les voit jamais, pourtant ils ont cet engagement de nettoyer l'église. C'est incroyable. Hein. Alors que d'autres, peut-être moi qui suis au micro aujourd'hui, c'est parler au micro, c'est témoigner, c'est faire ceci, c'est faire cela, mais est-ce que ma vie est réglée devant Christ? Il n'y a rien qui peut vous le dire. Absolument rien. Je vous rassure quand même. Je l'ai fait. Donc l'attitude des Juifs est identique, en fin de compte, à ce que je viens d'expliquer aux chrétiens. Non, ils vont de Dieu en Dieu. Alors que la grandeur d'Israël, c'était quoi? C'était obéir à l'Éternel. En Deutéronome 28, là on va lire un grand passage, et pour vous montrer que quel était en fin de compte ce que l'Éternel voulait pour ce peuple. Vous allez voir que des fois on pense... Alors 28, chapitre 28, verset 1, 14. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu... en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au portage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et ils n'emprunteront point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. N'est-ce pas magnifique? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Quelle joie d'être appelé par le monde du nom de l'Éternel. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Est-ce qu'on n'aspire pas à ces choses? Être appelé du nom de l'Éternel. Donc, les Juifs avaient abandonné le Dieu. Et ça, on voit au chapitre 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. S'ils ont abandonné l'Éternel, c'est qu'ils étaient déjà avec l'Éternel. Ils l'ont abandonné. Et le malin a cette facilité justement de nous faire reculer. Là on dit, et ils se sont retirés en arrière. Est-ce que... J'avais lu également un livre qui disait que est-ce qu'on est déçu lorsque l'Éternel ne répond pas à nos prières? Est-ce qu'on veut que l'Éternel réponde à chaque fois à nos prières? Est-ce qu'on donne des temps à la réponse de l'Éternel? On a vu avec Paul, mardi, la patience. Est-ce qu'on est patient avec les choses de l'Éternel? Parce que si on est patient, c'est qu'on a cette foi de savoir que l'Éternel va agir. Et si on a cette foi, on n'a plus d'inquiétude à avoir. On n'a plus de suspicion. Et beaucoup, malheureusement, ont une profession de foi sans vie. Et c'est ce qui caractérise ici le peuple d'Israël. C'est qu'en fait, contre l'Éternel, leur reproche d'avoir une foi sans vie, d'être à droite, d'être à gauche, de manquer de droiture, de manquer de vérité. Et il va agir envers son peuple comme envers Babylone, exactement de la même manière. La mise en garde de l'Éternel commence par un rappel sur les témoignages de sa puissance. Il est obligé de leur rappeler tout ce qu'il fait. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu le ciel. Il est obligé malheureusement de rappeler à son peuple tout ce qu'il a fait. Il est obligé de dire, mais je suis votre Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai bien voulu. Et je vous ai choisi comme étant mon peuple. Comme il vous a choisi aujourd'hui d'être co-héritier de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est ce qu'il dit à son peuple. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et là, il va parler de l'action d'un homme qu'on va retrouver au chapitre 41, au verset 2. On en a parlé d'ailleurs, je crois que c'est mardi. Qui a suscité... Bon, je vais reprendre le verset 1. Il fait silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et a sujetti des rois, qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envole. Alors, bien sûr, ici, on parle certainement de Cyrus. Alors, Cyrus est premier fondateur de l'Empire perse. Il a gouverné, en fin de compte, en 550 à 530 avant Jésus-Christ. Il deviendra roi de Médèse en 549 avant Jésus-Christ. Et avec l'aide des Juifs, il va s'emparer de Babylone en 539. Et il permettra aux Juifs de revenir dans le territoire de Juda. Donc ici, on parle de Cyrus. Celui que l'Éternel a aimé va exécuter le bon plaisir. Quand on parle du bon plaisir ici, on parle du jugement. C'est lui qui va exécuter le jugement de Dieu sur Babylone et sur les Chaldéens. Mais bien sûr, au travers Cyrus, on voit qui apparaître ? Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va faire exactement la même chose. Et c'est lui qui prend la parole à partir du verset 16 et les suivants. Il est présenté comme le serviteur de l'Éternel. Au verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je t'instruis pour ton bien. » C'est là où je dis, est-ce que lorsqu'on prie, lorsqu'on a des problèmes, est-ce qu'on a la foi de savoir que Dieu agit dans nos vies? Dieu était là avant, il est là pendant et il sera après. Il sait exactement là où nous serons dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans un quart d'heure, dans 1 heure, demain, dans 1 semaine. Il sait exactement là où on est. Et il nous dit, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Lorsqu'on l'écoute, parce qu'on l'écoute, est-ce qu'on a ce discernement de savoir que c'est Dieu qui nous parle? Est-ce qu'on écoute Dieu avec son intelligence ou est-ce qu'on écoute Dieu avec son cœur? Parce que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est nous amener dans ses voies. Et lorsqu'on est dans la voie de Dieu, on y reste. On doit avoir cette droiture. On doit avoir la vérité en nous. Vous imaginez que l'Éternel est obligé de dire à son peuple, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je trouve ça pathétique pour un peuple qui est l'élu. C'est triste. Est-ce que le Seigneur vous a dit un jour, écoute-moi? Moi, je peux vous témoigner qu'il y a plus de 10 ans, le Seigneur m'a dit, règle ta vie. Et là, je peux vous dire que c'est réellement l'Éternel qui m'a parlé. Il m'a mis dans une situation où j'avais été mis en garde à vue pour un truc que je n'avais absolument jamais fait. J'ai été placé en garde à vue et au milieu de ma cellule, j'ai entendu distinctement une voix qui me disait « Règle ta vie ». Est-ce que je suis plus sorti de cette garde à vue et puis ça y est, je suis sorti? Non. C'était une citerne que l'Éternel avait mis devant moi et il m'a plongé dans cette citerne, il m'a dit « Lorsque je vais t'en sortir, obéis-moi. » Je peux vous dire que le soir même, j'étais chez Kit. Et j'ai réglé ma vie. Je lui ai exposé les choses, tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais que serait-il arrivé si je n'avais pas fait, si je n'avais pas obéi? Qu'arrive-t-il dans vos vies lorsque vous entendez au travers d'un témoignage, au travers d'une parole, d'une prédication? Qu'arrive-t-il dans vos vies lorsque vous savez personnellement que l'Éternel vous parle et que vous sortez de la salle, on a oublié? Est-ce que ce n'est pas l'image de la graine qui reste sur le bord du chemin? L'Éternel ne parle jamais au hasard. Ici, dit à son peuple, écoutez-moi. Écoutez-moi. Et obéissez. Comment on écoute l'Éternel quand il parle? Quel est notre cœur ce matin? Est-ce que je suis venu vraiment pour entendre l'Éternel parler? Ou ajouter un dimanche à un dimanche? Quelle est ma soif ce matin? Est-ce que parce que je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, je m'assois et je ne bouge plus? Ah, l'Éternel va parler aux autres. L'Éternel va parler aux autres. La prédication ce matin, ce n'était pas pour moi. Ce qu'a dit Emmanuel, ce n'était pas pour moi. Moi, je suis un ancien, je suis chrétien depuis, je ne sais même plus d'ailleurs, mais bon. Mais vous imaginez, et il y a des gens qui ont cette attitude-là, où la parole de Dieu ne les atteint plus parce qu'ils sont chrétiens depuis... Enfin, ils pensent malheureusement. Parce qu'ils sont dans une église depuis tant d'années. Et l'Éternel, il dit, mais écoute-moi, écoute-moi. Et on n'entend rien. On n'entend absolument rien. Et un jour arrive la citerne. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Je ne comprends pas. Je suis présent à l'église tous les dimanches, je vais à toutes les réunions. Mais Pascal, c'est pas ce que je te demande. Quand je dis Pascal, vous mettez votre prénom. C'est pas ce que je te demande. Je ne t'ai jamais demandé ça. Je ne t'ai jamais demandé ça. Tout ce que je te demande, agis avec droiture et vérité. C'est tout ce que je te demande. Le reste suivra. Au verset 18, oh, vous imaginez l'Éternel, oh, si tu étais attentif à mes commandements. C'est comme si l'Éternel disait ce matin, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me donnes ta vie? Ce peuple, vous imaginez ce peuple, l'Éternel l'a fait sortir de l'esclavage. Il a agi avec puissance tout le long de la traversée du désert. Et ce peuple est encore avec des idoles. Qu'est-ce qu'il a fait, l'Éternel, dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Et malgré tout ce qu'il a fait dans ma vie, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que j'agis avec droiture et vérité? Il y a plein ensuite toutes les bénédictions. Vous imaginez? Si tu étais attentif avec ton commandement, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ça, je vais revenir sur cette feuille, sur cette partie. La solution, qu'est-ce que je dois faire? D'accord, tu me parles de ça, tu me parles des bénédictions, tu me parles de l'ordre d'écouter l'Éternel. Que dois-je faire? Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des incantations, qu'il faut aller voir les anciens pendant une semaine sans arrêter, il faut prier, il faut se mettre à genoux. Oui, il faut se mettre à genoux, mais pour donner sa vie au Seigneur. Mais il y a une chose à faire. C'est pas grand-chose. Méditer la parole de Dieu. la faire passer de son intellect à son cœur. La barrière pour le chrétien, c'est l'intellect. C'est-à-dire de commencer à lire la parole de Dieu comme un livre. Non, il faut prendre la parole de Dieu et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire maintenant? Et commencer à fouiller, commencer à lire, commencer à prier, dire, mais vas-y, je ne comprends pas ça, explique-moi. Moi, il y a des textes que je ne comprenais absolument pas. Je vous le dis. Et un jour, je dis au Seigneur, mais je ne comprends pas, explique-moi. Bon, ce n'est pas venu du jour dans la minute. Hein. Et quelques semaines plus tard, j'ai relu le même. Et ça s'est ouvert. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mon trésor ce matin, c'est quoi? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même? Ou alors c'est tout ce qui est environnant? Mon travail, mon niveau social, ma place dans l'Église? Est-ce que c'est ça? Mon travail pour l'Éternel? Très important. Ou est-ce que c'est imprégner sur son cœur la parole de Dieu? Au verset 19, on a eu un jour une discussion, il y a beaucoup de temps, où j'avais dit quelque chose qui a effaré certaines personnes. Je pense toujours que l'Éternel est capable d'anéantir l'infidélité permanente. Je me trompe peut-être, mais je pense que l'Éternel est capable d'anéantir l'infidélité permanente. Un exemple, Exode chapitre 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est la supplique de Moïse qui offre sa propre vie pour obtenir le pardon des Israélites. Il demande à l'Éternel d'effacer son nom du livre de vie. Donc s'il demande à l'Éternel, c'est que c'est possible. Moi, c'était ma conclusion. Si Moïse demande à l'Éternel d'effacer son nom, c'est que c'est possible. Et c'est pour ça que je dis que l'Éternel est capable d'anéantir l'infidélité d'une personne. Il va le faire passer, il est capable de le faire passer dans des choses terribles. Il y a beaucoup de gens disent, oui, mais si j'ai tel ou tel problème, c'est le malin, c'est le diable. Et il oublie une chose, c'est que l'Éternel est parfaitement capable de nous mettre dans des situations très, très difficiles. Il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement qu'après, c'est lui qui va nous en sortir. Si vous réfléchissez bien comment on fait un fer à cheval,